possible de donner la galerie Balaton depuis un certain temps, mais il y a pas de temps à la plus belle langue du monde, donc c'est d'autres circonstances. Il parle un petit peu mieux l'arabe que l'italien. Donc, c'est dans le langage, dans le monde scientifique, le langage scientifique, j'ai eu l'occasion de rapporter deux fois le dossier de candidature à maître de conf, à cause de maître de conf, la deuxième fois était la bonne. Et je trouve particulièrement intéressant que quelqu'un comme toi confronte, disons, son discours sur l'excellence dans un contexte comme Aix-Marseille Université. Et ça montre bien, mais ça c'est déjà un point de vue sociologique, hein, que l'excellence est un enjeu de lutte et qu'on peut effectivement essayer de se poser sur sa définition, sur ses pratiques. Mais en fait, j'ai connu le nom de Magali Balator plus tôt encore. C'était soit au moment de l'apparition de son bouquin en 2010 ou juste avant, à l'époque j'encadrais des mémoires de licence 3 de sociologie, c'est le début de la recherche, des petits travaux d'études de recherche. Il y avait beaucoup régulièrement des étudiants qui choisissaient de faire un sujet sur les bourses Erasmus, et avant 2010, il n'y avait pas Magali Balator, c'était toujours des mémoires qui finissaient par être finalement des plaquettes publicitaires favorables à Erasmus, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et j'étais un peu fascinant, et à partir de 2010, je me suis dit qu'il y a une étudiante qui m'a dit: moi je viens de lire un truc de Magali Balator, j'ai dit qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, les étudiants apprennent des fois plus de choses de ce qu'on connaît. Et là, il y avait enfin un point de vue que vous avez peut-être entendu, qui est un point de vue important pour pas que les objets que l'on étudie donnent lieu à des réflexions à géographie toujours favorable. Et bien là, il est important d'avoir un peu de sociologie critique, c'est-à-dire la sociologie critique non pas comme une fin en soi ou comme un dogme, mais comme une sorte d'outil qui permet de questionner un peu tous les aspects d'un phénomène pour savoir quand même ce qui est intéressant, mais aussi ce qui le limite, et puis les inégalités, enfin, tout ça, tu l'as largement décrit. Et donc, ton travail, comme d'autres que tu as cités, permet d'éviter que la comparaison, notamment internationale, mais on peut dire cette comparaison, mais que cette comparaison internationale soit une fin à elle-même, hein, et il faut qu'elle reste au contraire un outil au service, alors par exemple, ce qu'on peut appeler les homologies structurantes, c'est-à-dire que vous étudiez plusieurs contextes éducatifs, et puis vous remarquez qu'il y a des phénomènes qui se répercutent dans des contextes très différents. Ça, voilà, c'est souvent très intéressant. Alors moi, j'avais un exemple, une enquête que tu connais, hein, de Marois, sur divers systèmes, et sur le marché éducatif en Europe. J'avais six pays comparés, et on remarquait à chaque fois qu'un des éléments structurants de chacun des six systèmes, du plus libéral anglais au plus étatisé, c'était le roumain, ou au moins développé, c'était le portugais, les six systèmes dans leurs différences montraient quand même qu'il y avait toujours comme moteur les stratégies des parents, des catégories sociales favorisées, qui essayaient soit de développer leurs avantages, soit de les consolider. Enfin, selon les contextes, il y avait toujours ce rôle moteur qui faisait évoluer, en bien ou en mal, sans pouvoir en discuter, mais le système. Donc ça, c'est intéressant de découvrir, par-delà donc l'exotisme éventuel qu'on pourrait projeter sur des contextes différents, des phénomènes communs qui montrent quand même une certaine quelque chose qui s'inscrit dans l'universel. Et donc ça s'oppose à l'impératif, au faux impératif de généralité. À la limite, il n'y a pas besoin d'étudier sur 10 pays ou même sur 6 pays, hein. Il suffit de prendre 2 pays, et quand on fait l'hypothèse d'homologie structurale, une comparaison unique en généralité peut permettre d'avoir des résultats tout à fait intéressants. D'autant plus que la généralité et l'internationalisation, ça a aussi fait l'objet de critiques au niveau de l'étude de la recherche, des rapports de recherche. En sociologie, par exemple, il y a pas longtemps, Étienne Ollion, un chercheur qui a fait une partie de ses études aux États-Unis, a montré quelque chose de tout bête en sociologie, mais en fait, l'international, c'est surtout les États-Unis d'Amérique. C'est pas l'universel. C'est-à-dire que, en fait, les États-Unis ont réussi à imposer comme injonction à l'international, une injonction, c'est l'injonction à la comparaison internationale des recherches, mais il faut mieux s'y soustraire. Donc, quand vous faites des recherches en sociologie des États-Unis, vous n'avez pas cette injonction à l'international forcément, vous pouvez tout à fait faire des recherches dominantes dans le monde, le marché mondial de la recherche, sans sortir des États-Unis. Donc, c'est une relativisation du point de vue qui, là encore, est assez intéressante. Je me souviens peut-être aussi d'une anecdote où un bourgeois faisant une conférence au Japon, il disait disais, on toujours pour essayer de réfléchir un peu à cette façon sociologique. Là, j'ai commencé sa conférence en disant « Si j'étais japonais, je n'aimerais pas ce que la plupart des non-japonais disent sur le Japon. » Vous voyez, c'est des choses comme ça qui permettent de poser un point de vue, de déconstruire plein de choses d'un coup et d'avancer sur des pistes, enfin, de faire des pas de côté pour avancer sur des pistes qui évitent des heures et des heures, donc de présentation, à géographie, à phénomène, etc. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Alors bon, on commence à mesurer depuis quelques mois qu'on peut remplacer dans la phrase de Bourdieu « japonais » par « marseillais », vous voyez, par exemple. Je sais pas. Alors donc, pour en revenir à des choses dont pas plus sérieuses, puisque finalement c'est assez sérieux, enfin en tout cas assez scientifique, ce que je viens de dire aussi sur l'entrée. Mais c'est le plaidoyer, si vous voulez, pour le cas particulier bien construit contre les généralités mal construites. Et ce qui est intéressant dans le propos de Magali, je ne sais pas si tu as diffusé aussi l'article en même temps que le...
C'est
pour ça que
je l'ai donné
avant. Donc il y a un article, donc j'ai été qualifié, qui est vraiment...
C'est pas publié encore.
C'est pas publié, alors bon, c'est notre secret. Mais sans entrer dans les détails, c'est quand même un article qui, voilà, qui passe en revue systématiquement les généralités mal construites pour justement les critiquer. On pense aussi à une enquête il y a quelques années d'un chercheur de l'IRD, l'Institut de Recherche et Développement, Étienne Henry, qui disait qu'il avait étudié la mobilité dans les grandes métropoles mondiales et qui avait montré assez facilement finalement que la mobilité c'était une contrainte en fait pour les pauvres et que les riches eux-mêmes, comme les États-Unis, j'ai évoqué à l'instant pour la sociologie, les riches essayaient surtout d'échapper à la mobilité et étudier notamment les temps de trajet, de transport pour aller du logement au travail. Donc cette mobilité-là, qui est une mobilité des embouteillages, des bouchons, de l'épuisement, plus on descend dans l'échelle sociale et plus le temps passé dans cette mobilité contrainte est grand. Donc c'est des manières de poser un objet qui est assez intéressant. Voilà. Alors c'est vrai que dans toutes ces histoires notamment d'Erasmus, mobilité, tu as cité le film L'Auberge espagnole, hein, qui c'est une trilogie même, c'est vrai qu'à la limite...
On a un peu arrêté, moi.
Oui, arrêter, mais c'est vrai que la question des contenus intellectuels, du rapport au savoir, tout ça, elle est jamais posée. Et dans L'Auberge espagnole, la trilogie, il y a une seule fois à un moment donné où la question des contenus, des cours suivis, du travail universitaire est posée. Ils sont au début du premier film, dans un amphithéâtre à Barcelone, et le prof arrive et commence à parler catalan. Et donc, comme ils n'ont pas aucune notion de catalan, ils ont envie de suivre, et là, ça sera sur une minute qu'ils vont passer dans l'amphithéâtre pendant. Du coup, on ne voit pas la différence entre les deux autres films de la trilogie où ils vieillissent, où ils sont plus du tout étudiants, mais finalement, bon, ben voilà, c'est pas grave, de toute façon, c'était Erasmus au début. Donc ça, c'est intéressant, sur les contenus intellectuels, le rapport au savoir, ça, c'est pas assez étudié, et puis même tout simplement la passion aussi, là-dessus, la passion qu'on peut éprouver. Un collègue qui travaille à Sciences Po Bordeaux, il y a un des problèmes actuellement de Sciences Po Bordeaux, il y a comme toutes les salles, les établissements, pardon, d'excellence d'internationaliser ses cursus, eh bien, des fois, a du mal à récupérer ses étudiants qui partent à l'étranger. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils ont décroché un poste extraordinaire, très bien payé, c'est notamment parce que ça a réveillé, par exemple, une passion pour travailler professionnellement et arrêter ses études dans des organisations gouvernementales, dans des domaines associatifs perdus au fin fond de certains pays, où ils gagnent pas un rond, mais où ils ont l'impression, certainement justifiée, de bien gagner leur vie. Donc là encore, c'est le contraire, si vous voulez, d'un certain modèle d'excellence qui me semble assez intéressant, que justement ça se retourne contre une institution qui est un peu aveuglément parfois s'est jetée dans l'international, comme disait De Gaulle, qui est à la mode actuellement, à propos du l'histoire nous retiendra certainement pas dans cette interview. Nous avons passé comme si de rien n'était à faire des séminaires, à visiter des appartements pour ceux qui veulent faire des locations d'achat immobilier, comme si de rien n'était, certainement, parce que tout ça sera une parenthèse refermée dimanche, mais quand même, ça fait des trucs. Donc on quantifie surtout, je dirais là-dessus, on quantifie surtout les nationalités, dans le sens de généralité, alors que surtout, il faudrait s'intéresser au qualitatif. Et Magali le fait aussi dans ses ouvrages, mais c'est vrai qu'elle est obligée de se déconstruire avant pour arriver à ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est que tu dis que 4L, vraiment, ces étudiants Erasmus, ces étudiants qui sacrifient à la mobilité. C'était un peu ce genre de considération. Je ne sais pas s'il y a des réponses à demander immédiatement ou aussi
peut-être Nasser et puis Magali si continue de monter.
Ok. Je vais peut-être dans le cadre beaucoup plus précis. Je vais te faire quelques réflexions, quelques remarques, donc on frappe, puis après tu peux répondre comme prévu. Alors, premièrement, donc, je vais parler d'abord de l'expérience. On le voit, nous, donc, quand les étudiants nous sollicitent pour partir à l'étranger, ils ont du mal à construire leur parcours, ils ont du mal à trouver les liens avec les crédits, donc... choisi. Et quand ils reviennent, ils ont du mal à tirer bénéfice donc, de ce qu'ils ont acquis à l'étranger. Et du coup, donc, on se demande comment donc, les programmes se construisent, quelle est la plus-value donc, de ce séjour à l'étranger, et qu'est-ce qu'ils apprennent vraiment, et comment. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque renvoie un petit peu ce qu'on a vu ce matin. Ce matin, on a beaucoup parlé donc, du numérique et la mise en place donc, des plateformes pédagogiques, la mise en place des MOOC, les cours à distance. Et en t'écoutant donc, tout à l'heure, je me suis dit, mais est-ce que la mobilité n'est-elle pas aujourd'hui donc, bouleversée par les technologies numériques ? Je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Ensuite, ma troisième remarque, on a parlé donc, tout à l'heure, on sait qu'il y a des écarts entre les souhaits donc, d'aller faire des études à l'étranger et la mobilité réelle, et notamment donc, à cause de la bourse. Et je vais donner deux ou trois chiffres qui, d'après donc, les enquêtes, n'est pas suffisante. Elle couvre 60% des dépenses pour 80% des étudiants qui reçoit une bourse, et pour 30%, elle ne couvre même pas le loyer. Alors on se demande donc ici, est-ce qu'il n'y a pas d'autres obstacles ? Quel est l'élément le plus discriminant ? Est-ce que c'est, par exemple, les compétences linguistiques ? Est-ce les ressources financières ? Est-ce autre chose ? Et enfin, mon dernier point, tout à l'heure, tu avais parlé donc, des 10% des inscrits donc, qui partent à l'étranger. Je me suis posé la question, quelle est la part donc, des classes favorisées par rapport à celles des classes défavorisées. Ce qui m'emmène donc à aborder autre chose, tu en as parlé aussi tout à l'heure, c'est la notion de démocratisation. Donc, tu le sais, comme nous tous, que cette donc, notion comporte donc, un côté quantitatif et un côté qualitatif. Alors, certes, donc, quand on regarde les statistiques, les enfants de classes défavorisées augmentent leur part par rapport à ceux qui partent à l'étranger, mais qualitativement, où ils vont ? Est-ce qu'ils vont dans les filières les plus prestigieuses, les filières sélectives, comme tu l'as dit tout à l'heure, les filières les plus rentables socialement ? Ou alors, comme dans nos universités ici, on retrouve la même chose, ben, ceux qui sont donc des classes favorisées se retrouvent dans les filières les plus rentables socialement, et ceux qui sont de classe populaire se retrouvent dans les filières dites donc, j'ose pas plus le dire, mais en tout cas des filières non rentables socialement, ou non sélectives, ou autre. Voilà donc des questions donc en vrac, donc tu commences par celle que tu veux.
Merci. Il y a une question, à mon avis, la question sur qu'apprennent réellement ces étudiants et qui se rejoignent, hein, vos questions sur comment ils construisent leur programme, etc. Alors là, ça m'oblige un peu à venir sur comment ils sont sélectionnés déjà. Et là-dessus, entre les pays, il n'y a pas non plus, ça n'a pas été harmonisé. C'est-à-dire que dans certains pays, et je pense à l'Italie, en Italie, il fonctionne sur un système de concours, donc il y a il bando, donc les étudiants choisissent, ils font des vœux, ils vont remplir un document en faisant des vœux, je voudrais partir, là il y a telle offre de mobilité, il y a quelques places pour l'Angleterre, pour l'Espagne, etc. Donc premier vœu, deuxième vœu, etc. Et après, en fonction de critères qui sont prédéfinis, donc en général c'est les notes, quoi, donc le niveau scolaire. C'est la rapidité du parcours, parce qu'en Italie, quand je rentre un peu dans les détails, malheureusement, parce qu'on ne comprend pas, mais en fait, l'Italie se caractérise par un nombre important de ce qu'on appelle les fuoricorsi. Il y a beaucoup d'étudiants qui, parce que comme il n'y a pas d'examen, de passage automatique d'une année sur l'autre, une fois qu'on a passé des examens, on choisit quand on passe ces examens, etc. Donc, on peut repérer non pas le retard par le redoublement, mais par le fait qu'on met beaucoup plus de temps pour passer tel examen. Donc, moi, j'avais interrogé évidemment dans mon étude des coordinateurs, des responsables Erasmus, qui disaient qu'on ne va pas ajouter autant le temps, et qui donc ne faisaient jamais partir des gens qui étaient déjà en retard. Donc, il y avait ça comme critère, il y avait le critère de et puis après il y a le critère de nombre de personnes par rapport au nombre de places, du nombre de demandes, d'offres, etc. Donc c'est très, clair, explicite. Alors à l'université de Provence, Feu, l'université de Provence, où j'ai étudié la question, où j'ai interrogé aussi des responsables, c'était très différent. C'est-à-dire chaque coordinateur dans le département avait ses critères, mais ce n'était pas spécialement explicite. Les gens allaient voir le coordinateur, quel que soit le département d'ailleurs. Voilà, je souhaite partir en Erasmus, et donc ça rejoint la question aussi entre le souhait et le fait qu'il y ait une sélection qui est plutôt à l'Université de Provence une auto-sélection. C'est-à-dire que les coordinateurs essayent de dissuader les personnes, par exemple, au niveau des langues trop faibles, etc. Mais jamais le niveau de la langue n'est quand même quelque chose qui est un critère explicite où on dit, voilà, en France et en Italie, vous n'avez pas un bon niveau de langue, vous ne pouvez pas partir. Alors qu'en Angleterre, c'est complètement différent. Donc c'est laissé à la discrétion quelque part des coordinateurs dans les départements. Et en Angleterre, en fait, à l'université de Bristol, pour être plus précis, parce que c'est des études de cas, on choisit, quand on rentre à l'université, lors de sa première année universitaire, d'étudier, de faire un bachelor degree. Donc, with a year in European Continental Europe. Okay. Donc, on choisit, au lieu de faire une licence en 3 ans, de faire une licence en 4 ans. Pourquoi ? Parce que les Anglais n'ont pas confiance justement dans le système, disons, d'évaluation des pays. Donc, ils vont demander, quand il revient, la dernière année, c'est l'année qui va compter pour la mention du bachelor degree. Donc, ils partent en troisième année. La quatrième année, ils retournent la faire quand même. Donc là, c'est le système ECTS et d'équivalence de crédit qui ne marche pas du tout, finalement, parce que le système, normalement, devrait pouvoir valider et ne pas avoir à refaire des examens qu'on a déjà fait à l'étranger, dans le système idéal, disons, imaginé par la Commission européenne. Donc eux, ils doivent faire le choix, quand ils rentrent en première année, de « je fais une année d'études à l'étranger », donc c'est dans l'intitulé du diplôme. Donc ça change beaucoup de choses en termes de sélection, d'auto-sélection, de qui sont les étudiants qui vont partir. Donc en Angleterre, ils doivent choisir très précocement, donc c'est des personnes qui vont déjà avoir une idée au lycée, on va dire « voilà, je veux aussi faire une année à l'étranger », etc. Donc, en France, c'est beaucoup l'auto-sélection qui va jouer, et donc en Italie, les critères sont très explicites et favorisent forcément ceux qui ont déjà des bons niveaux scolaires et qui ont en général leur premier choix, et les autres après prennent des places restantes en fonction de là où, voilà. Donc là, c'est très clair pour qui part où, c'est-à-dire que moi, on va avoir un bon niveau scolaire, etc., on va avoir son deuxième, troisième choix, qui sont en général donc les destinations aussi. Donc ça a une influence évidemment sur les caractéristiques sociales des populations en fonction de là où ils vont, on ne va pas avoir les mêmes. Et c'est ce que je disais quand je parlais de sélection plus forte pour certaines destinations, donc avec des profils qui sont plus favorisés en fonction du ratio offre-demande, etc. Donc ça, c'est assez clair. Alors, pour ce qui est des apprentissages. Donc là, c'est spontanément, si on fait du CALI, on s'aperçoit que ce qui vient en premier, c'est toujours l'apprentissage expérientiel. rarement, on nous, quand on, les gens qui reviennent ou que j'ai interrogé, disent, voilà, moi, sur la matière spécifique, une discipline spécifique, moi, j'ai eu des cours sur telle ou telle personne que j'avais jamais étudié, tel ou tel auteur en France ou ailleurs. Donc, quand on parle en premier, ça m'a fait grandir, l'ouverture d'esprit. Et c'est ça, en fait, qui vient plus spontanément, on va dire, dans les entretiens à l'esprit des étudiants. Après, quand ce qui concerne l'apprentissage de la langue, là aussi, c'est très variable, parce que, donc, comme je disais, il y a des étudiants qui ont déjà des très très bons niveaux, et donc, eux, ils vont être intégrés très rapidement, ils vont progresser très rapidement. D'autres étudiants qui vont avoir des niveaux plus... qui vont des niveaux de langue et qui ne sont pas forcément très, très élevés parce qu'on ne demande pas un niveau de langue, etc. Ils vont rester entre des Erasmus et là ils vont parler une espèce de langue dans le pays en question qui n'est pas forcément la langue, ça peut être un anglais très, très basique, etc. Et on n'a pas d'idée, enfin je veux dire objectivement, on ne sait pas quels sont les progrès, par exemple en langue, des étudiants qui partent en Erasmus, puisqu'on n'a pas d'examen, il n'y a pas au retour, on leur fait pas un examen avant, on leur fait un examen après, donc avoir une idée de quel est leur niveau de progression est difficile, et à mon avis, ça dépend beaucoup aussi des aspirations des personnes qui partent, de leur motivation au départ. Je pars pourquoi ? Je pars parce que j'aimerais bien faire un doctorat après en Angleterre, ce qui est le cas par exemple d'un certain nombre de gens que j'ai rencontrés du Sud qui vont aller en Angleterre faire un Erasmus et rester en Angleterre pour faire un doctorat, etc. Ou des personnes comme les Anglais qui partent en Espagne et qui pour eux, c'est « year out », je veux dire, c'est la fameuse « year out » que normalement ils font entre la fin des études secondaires et l'université, l'année sabbatique, et c'est une année sabbatique, quoi. Et donc, je pense qu'ils vont parler un peu d'espagnol, mais l'objectif pour eux n'est pas d'avoir un très bon niveau d'espagnol. Donc ça va dépendre beaucoup des aspirations et des différences de motivation des apprentissages, quoi. Et c'est la même chose pour les apprentissages, c'est pas la même chose que de partir à un niveau master où on fait un mémoire, ou on partir à des niveaux au doctorat ou à d'autres niveaux. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de noter que malgré le CTS, le credit transfer qui a été mis en place, dans les départements, comme tu disais, au retour, comme il n'y a pas toujours d'équivalence entre les cours passés, les examens passés à l'étranger et dans son département, les coordinateurs et les départements, les professeurs continuent de bricoler un peu avec essayer de trouver des matières dans lesquelles mettre des notes à ces étudiants où on ne sait pas trop comment faire pour leur faire valider tel ou tel examen. Donc il y a un bricolage là qui est très très clair et une difficulté, disons, à avoir un petit peu les acquis à l'étranger. Ça c'est évident, qui cache mal aussi, en fait, souvent. Moi, ce que je trouvais très intéressant en interrogeant les coordinateurs, c'est que dans tous les pays, sans exception, on considère toujours son système comme le meilleur pour l'enseignement. C'est-à-dire, les Italiens disaient « qu'est-ce que c'est en France ? Ils font n'importe quoi, les Anglais font n'importe quoi, les Anglais disent « oh là là, froid, l'Italie, n'en parlons pas, quoi, c'est vraiment une horreur, etc. » On est obligé de leur refaire passer des examens. Parce que... Donc, quels que soient les pays en question, tout le monde considère son système comme le meilleur et comme l'étant le plus capable de transmettre et de faire progresser. Et donc il y a vraiment des réticences comme ça à donner. Il y a des professeurs qui sont très très réticents à donner une note dans un cours qu'ils ont pas vu l'étudiant, ils savent pas quel est ses acquis, mais pourquoi je demande au coordinateur, pourquoi vous me demandez de lui mettre 14 en fonction de l'ECTS, parce que il n'a pas suivi, je ne sais même pas de qu'est-ce qu'il a appris, etc. Donc ça, c'est certainement quelque chose sur lequel on ne s'interroge absolument pas et qui mériterait qu'on s'y intéresse, parce que là, bon, c'est vraiment un programme qui, quand même, je trouve, met bien au cœur, en fait, l'individu, les parcours individuels et pas les institutions. Donc là, on ne parle pas de il n'y a pas vraiment de coordination, on va dire, entre coordinateurs, etc. Le programme Erasmus, c'est un programme qui rentre bien dans cette chose de très très individuelle, qui est les parcours très individualisés qui existent aujourd'hui. Et finalement, les institutions, après, bricolent, font comme ils peuvent avec ces étudiants-là qui qu'il faut quand même leur faire valider un certain nombre. Donc avec des réticences plus ou moins grandes, je veux dire, en Angleterre, c'est très clair, ils considèrent qu'à l'étranger, c'est une allée où ben, ils ne vont pas avoir de notes, même s'ils passent des examens là-bas, elles vont compter pour rien dans leur... dans la note finale de leur diplôme. Je n'ai pas regardé technologie, mais elle est cassée quand même. Alors là, c'est intéressant parce que moi, j'avais montré dans ma thèse que ça augmente énormément le temps passé devant Internet, notamment pour communiquer avec ses parents, etc. Donc il faut savoir que ses amis restaient en France. Il faut savoir que quand même, moi j'ai fait mon étude, et c'est le gros de l'étude c'était en 2004-2005, et qu'à l'époque, je me rappelle parce que même moi-même, moi j'étais jamais rentrée. Par exemple, je suis partie un an, mes collègues mes camarades partaient sans rentrer. Aujourd'hui, je dirais plus que les avions, ils sont vraiment pas chers. Et je vois les Erasmus, j'ai vu notamment à Bruxelles, le nombre d'allers-retours que les étudiants font. C'est-à-dire que l'expérience, à mon avis, a quelque peu changé aussi. Les technologies, c'était très clair qu'en fait, il y avait une augmentation de la mobilité virtuelle, disons, avec la mobilité réelle. C'est deux choses qui vont dans le même sens. C'est pas des choses qui se contredisent. Mais là, je pense qu'il y a, à mon avis, dans l'expérience, là, c'était vraiment un détachement assez net de son pays, quoi. Surtout quand on allait un peu loin. Bon, après, les transfrontaliers, c'est un peu différent. Mais... Alors que maintenant, c'est vrai que les allers-retours avec le pays d'origine, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu plus fréquents. Et ils sont d'autant plus fréquents, moi je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas de rond, mais ils sont d'autant plus fréquents qu'on est des milieux favorisés aussi. Je veux dire, donc les différences aussi, à mon avis, d'expérience en fonction de l'origine sociale, peuvent être assez importants. C'est des différences qu'on peut noter, à mon avis, avec les étudiants internationaux qui sont hors programme, qui viennent d'Afrique ou d'autres pays, qui sont quand même beaucoup plus assignés à résidence, disons, que les étudiants Erasmus qui vont bouger peut-être davantage. Bon. Évidemment, ils sont aussi, on avait avec ma collègue fait une comparaison, c'est aussi des étudiants qui sont en moyenne favorisés par rapport aux autres. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, ça serait intéressant de revoir ces questions-là de technologie.
Une ouverture, puisque.
Oui, non, ça serait intéressant de voir ce qu'il en est aujourd'hui de la mobilité virtuelle avec effectivement la possibilité de garder un lien quand même assez fort avec le pays d'origine, même quand on est très très loin.
Merci.